réduisez facilement l'impact de votre consommation en écoutant la chronique de Nouveau Conso sur Radio Éthique.
Ludovic, on entend souvent parler d'obsolescence programmée. Bon, c'est un mot un peu compliqué. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est exactement que cette obsolescence programmée ?
Bien sûr. Alors, l'obsolescence programmée, en fait, ça regroupe l'ensemble des techniques qui visent à réduire délibérément la durée de vie d'un produit dans l'objectif d'augmenter, en fait, le taux de remplacement. Donc, en fait, c'est l'ensemble des techniques qu'utilisent les fabricants, globalement les marques, pour faire qu'un produit dure moins longtemps et qu'un consommateur soit amené à le racheter plus rapidement. Donc, attention, on parle bien, l'obsolescence programmée, c'est bien le fait de réduire délibérément la durée de vie d'un produit. Il ne faut pas avoir l'obsolescence programmée partout. Par exemple, si un fabricant ne fait pas tout ce qui est nécessaire pour allonger et augmenter la durée de vie de ses produits à l'infini, on ne peut pas considérer que c'est de l'obsolescence programmée. Non. L'obsolescence programmée, en fait, c'est un concept qui est assez vieux. Ça a bientôt 100 ans. Ça a été théorisé, en fait, dans les années 30 aux US par un économiste qui s'est rendu compte que, suite au crack de boursier de 29, que pour relancer l'économie, il y aurait plutôt intérêt à ce que les consommateurs américains rachètent plus souvent des produits plutôt que d'essayer de les faire durer le maximum possible. Et l'obsolescence programmée, donc il y a différents aspects, il y a différents types d'obsolescence programmée. Le premier, c'est évidemment l'obsolescence technique, le fait pour un fabricant de faire exprès qu'un produit tombe en panne, par exemple, au bout de 2 ans et un jour. Mais c'est aussi l'obsolescence logicielle, faire par exemple que le logiciel qui est derrière un produit électronique ne soit au bout d'un moment plus supporté, plus obsolète, et que donc pour continuer à bénéficier de son produit, il faille obligatoirement en racheter un nouveau. Et il y a un troisième type d'obsolescence programmée auquel on pense finalement assez peu, c'est l'obsolescence programmée esthétique. C'est le fait de rendre en fait obsolètes des produits, dépassés par la mode, quoi. Donc là, on pense notamment à tout ce qui est fast fashion avec le renouvellement permanent de collections. Ça incite à renouveler sa garde-robe alors qu'en vrai, les produits sont toujours en parfait état.
Et il y a aussi des produits à usage unique. Là, vous parliez des collants en nylon.
Alors, les collants en nylon, non, ils devraient pas être à usage unique, mais effectivement, ils le deviennent de plus en plus. Il y a eu un rapport créé par l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui fait un travail assez formidable là-dessus, qui a identifié qu'en fait, les collants en nylon, en moyenne, ils servaient 6 fois, alors que, au départ, d'ailleurs, à nouveau dans les années 30, ils étaient quasiment infilables, incassables. Et donc, en fait, les fabricants ont, au fur et à mesure du temps, réduit la solidité des produits pour faire que les consommateurs et les consommatrices soient amenés à renouveler et à acheter régulièrement des nouveaux collants.
Et là, on pense aussi à une marque de téléphone très connue.
Oui, on pense à Apple. Il y en a d'autres. Effectivement, Apple qui a été épinglé, même si je crois que la condamnation, il y a eu un accord, mais pour avoir... a priori ralenti les performances de ces anciens modèles d'iPhone lorsqu'ils ont mis des nouveaux modèles sur le marché. Donc c'est assez vaste, malheureusement c'est assez compliqué aussi de démontrer qu'il y a eu un effort et une volonté délibérée de réduire cette durée de vie.
Et alors quelles sont les conséquences de cette obsolescence programmée pour la société ?
Alors il y en a deux types. D'abord au niveau économique, en fait, ceux qui en pâtissent le plus, c'est nous en tant que consommateurs, puisque à devoir remplacer des produits obsolètes, rendus obsolètes, ça nuit forcément à notre portefeuille. Et on pense que acheter des produits moins chers va nous en prémunir, mais généralement non. Et du coup, on se retrouve à devoir racheter encore plus régulièrement de nouveaux produits, et au final, on y est perdant. Et c'est aussi en fait, on est aussi un petit peu forcé par notre modèle économique qui repose aujourd'hui beaucoup sur la consommation, la croissance. Il est viable parce qu'il faut faire de la croissance d'année en année. Et c'est donc à l'opposé, malheureusement, d'un modèle qui soit plus durable, plus soutenable pour la planète, qui serait basé plutôt là sur l'économie circulaire. Donc ça, c'est le premier impact négatif. Et le deuxième, c'est évidemment un point de vue environnemental. Et c'est d'ailleurs même là que c'est le plus important, notamment sur le réchauffement climatique. En effet, remplacer, ça veut dire... un produit, ça veut dire consommer de nouvelles ressources, consommer à nouveau de l'énergie pour produire et fabriquer ce produit. Et du coup, c'est générer aussi des nouvelles émissions de CO2. Et c'est loin d'être anodin quand on sait qu'en fait, plus de 50% des émissions de CO2 des appareils électriques et électroménagers sont dues à la fabrication et au transport. Donc le fait de devoir remplacer nous oblige à émettre à nouveau du CO2. Donc c'est complètement aberrant aujourd'hui vu le contexte.
On a bien compris la gravité du problème, mais comment pouvons-nous lutter, nous, les consommateurs, contre ce phénomène ?
Alors déjà, il faut savoir qu'en France, l'obsolescence programmée est un délit, et ça depuis 2015. Donc, puni de 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 300 000 euros d'amende ou 5% du chiffre d'affaires. Donc, pour une compagnie, une marque qui pratique ce genre de choses, le risque est assez important. Donc, nous, ce qu'on peut faire en tant que consommateur, c'est dénoncer, en fait, tous les cas qu'on rencontre auprès d'associations qui travaillent pour lutter contre ça. Et on a la chance, il y en a beaucoup. Je vous ai déjà cité Hop, mais il y a aussi l'UFC Que Choisir, par exemple, qui, via son observatoire des pannes, qui aide à identifier des potentiels cas d'obsolescence programmée. Et puis après, en tant que consommateur, on a aussi la responsabilité de se renseigner en amont et d'essayer de choisir au maximum les produits et les marques les plus durables, de les favoriser celles-ci pour pénaliser celles qui pratiquent l'obsolescence programmée. Et puis après, c'est aussi notre responsabilité, malgré un peu tous les bâtons dans les roues qu'on nous met, d'essayer de faire durer au maximum nos produits et de lutter contre ça.
Et quelles conclusions pouvez-vous tirer, vous, Nouveau Conso, devant ce phénomène ?
Alors nous, on en tient une conclusion que c'est un problème majeur, heureusement, qui est de plus en plus combattu. Donc ça, c'est une bonne chose. Et notamment avec pas mal d'initiatives qui visent à apporter de la transparence et à donner en fait les moyens aux consommateurs d'agir et de lutter et de favoriser les compagnies qui ne pratiquent pas ce genre de pratiques.
Mieux informé, plus responsable. Vous venez d'écouter la chronique de Nouveau Conso. Retrouvez le score carbone des produits électroménagers et de nombreuses astuces pour entretenir et réparer vos appareils sur le site nouveauconso.fr.